Saint-Esprit. Quelle merveille que la Pentecôte! Quel bonheur sublime! C'est vraiment l'accomplissement de la Pâque. Aussitôt après sa résurrection, le Christ dit à des apôtres : Je vais partir. Il avait dit d'ailleurs avant de mourir : Je vais partir. Il faut que je rentre chez mon Père. Et les apôtres étaient tout tristes. Ils disent : Mais il vaut mieux pour vous que je m'en aille. C'est préférable, c'est un bienfait. Si je ne m'en vais pas, l'esprit qui procède du Père ne peut pas venir. Chaque personne divine respecte absolument les deux autres. C'est un respect total, absolu. Et n'empiète pas sur l'économie des deux autres. Chacune des personnes divines est dans un amour et un respect total des deux autres. C'est cela la vie divine, c'est cela la divine trinité. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Rien. Vous avez vu les apôtres? Pendant 3 ans, ils étaient avec le Messie. 3 ans, ils l'ont vu, ils l'ont écouté. Mais ils ne comprenaient rien. Ils avaient peur. Ils vont commencer à être apôtres du Christ, là, aujourd'hui. Par la descente et la présence du Saint-Esprit en eux. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas dire un mot, on ne peut pas être, on ne peut pas respirer. Quelques mots sur cette fête gigantesque. À l'origine, il y a une fête juive. C'est très intéressant. En général, le Christ s'est appuyé sur ce qui lui avait été donné comme préfigure. Parce que ce qu'il vient faire sur terre accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes. La fête juive de Pentecôte, c'était la 50aine après Pâques, c'était la fête du don de la Torah. Et c'est très très célébré chez les juifs encore maintenant. Et fête du début des récoltes, c'est les prémices des récoltes. Et c'est très intéressant par rapport à la Pentecôte chrétienne. Avec la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, la loi devient intérieur et non plus extérieur. La loi devient vivante et non pas l'être morte, parce que la loi, vous pouvez la lire dans la Torah, puis dire je m'en fiche. Elle devient intérieure et vivante, elle devient spirituelle. Et quelle loi? Ce n'est pas une copie de la Torah, c'est l'accomplissement, c'est les béatitudes, c'est l'évangile du Christ, c'est la nouvelle loi. Mais cette fois-ci, les apôtres l'ont acquise, intériorisée, elle fait partie de leur être. Donc on a bien le don de la loi, et c'est la nouvelle loi. Et cette loi n'a pas pour but de devenir moins mauvais, c'était l'ancienne loi, elle a pour but de nous faire devenir saints. Saints comme votre Père est saint, parfait. Et cette loi devient intérieure. Nous comprenons pourquoi le Seigneur avait dit à un moment donné de sa vie. Vous savez, le Seigneur était infatigable pendant 3 ans. Il n'a pas cessé de marcher, de parler, de guérir, de ressusciter. Il était infatigable. Il a déployé au plan humain une énergie colossale. Puis des moments, il était fatigué humainement, j'entends. Parce que les apôtres ne comprenaient rien. Il était vraiment fatigué. Et à un moment, il a dit: qu'il me tarde que le feu soit venu. C'est le Saint-Esprit. Qu'il me tarde que le feu soit venu. Enfin, ils vont comprendre tout ce que je leur dis et enfin, ils vont pouvoir le vivre. Enfin, ils vont pouvoir être édifiés. Et vous avez remarqué l'autre parallèle avec la Pentecôte juive. Aussitôt, il y a des fruits. Vous savez, aussitôt, les apôtres parlent dans des langues étrangères. Qui ne connaissent pas, ce sont des illettrés, les apôtres, des galiléens illettrés. Ils deviennent des théologiens, ils guérissent les malades, ils ressuscitent les morts. Ce sont les prémices des récoltes spirituelles. Ce sont les prémices de la grande moisson qui aura lieu au retour du Christ en gloire. C'est ça la moisson, c'est le jugement dernier. Mais on a déjà les prémices, depuis 2000 ans nous avons les prémices. Le deuxième aspect que je voudrais évoquer avec vous. L'événement historique de la Pentecôte, parce que c'est un événement historique, se passe conformément aux paroles du Christ en Judée, à Jérusalem et dans le Cénacle. Là où le Christ avait accompli la Sainte Cène. Et là où le Christ avait transmis aux apôtres les deux pouvoirs divins qui sont fondateurs du sacerdoce, le pouvoir de consacrer les dons et le pouvoir de lier des liés. C'est les deux pouvoirs divins qui sont fondateurs du sacerdoce. C'était là, dans ce Cénacle, précisément là. Et pourquoi est-ce que ça s'est passé là, en Judée, à Jérusalem, dans le Cénacle? Parce qu'il y a un aspect fondateur dans la descente du Saint-Esprit. C'est la véritable naissance de l'Église. Avant, les apôtres ne faisaient que regarder, écouter. Ils étaient comme des enfants. Ils disaient, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, je n'ai pas compris ceci. C'était comme des gosses, comme des enfants avec un papa. Ils n'étaient pas partie prenante dans ce que faisait le Christ, dans ce qu'il disait. Et aujourd'hui, ils deviennent les 12 pierres de fondation de l'Église. Cette Église, c'est l'Église universelle, c'est l'Église éternelle. Ce n'est pas seulement l'Église historique, éternelle. Vous vous souvenez de ce qu'a dit le Christ? Vous serez sur 12 trônes autour de moi dans mon royaume et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. C'est éternel. Et l'autre raison, c'est que dans cet événement de la descente du Saint-Esprit, il y a un aspect eschatologique. La présence du Saint-Esprit dans les apôtres annonce le royaume de Dieu, lorsque Dieu sera tout en tous. On en a là les prémices, c'est une évidence. La Jérusalem terrestre annonce la Jérusalem céleste. Cet événement divin est la confirmation et le sceau de tous les événements de la vie du Christ. Vous avez vu que tous les événements de la vie du Christ se sont passés en Judée. Bethléem, c'est un Judée. C'est là où il a souffert, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Tous les événements qu'il a accomplis en tant que grand prêtre sont en Judée, parce que c'est le lieu de la rencontre de l'homme avec Dieu. C'est le symbole du royaume. Mais la mission du Christ et la mission qu'il donne aux apôtres se passe en Galilée. Parce que la Galilée, c'est le monde déchu. Le Christ, il a dit, je suis venu sauver les gens qui sont perdus, je suis venu guérir les malades, je ne suis pas venu pour le plus important. La mission réunit en Galilée. Et aussitôt après la résurrection, il a dit, partez dans le monde entier. Ce n'est pas que pour les Juifs, c'est le monde entier. C'est pour l'univers entier que je suis venu. Et puis, autre aspect, le Cénacle. On a vu la Jérusalem, la Judée et la Jérusalem. Mais il y a un aspect très intéressant dans le Cénacle. Le Cénacle, c'est l'Église. Le Cénacle représente l'Église. C'est là où on célèbre les mystères, l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. Et c'est là où on nous remet les péchés. Ce n'est que là. Le seul lieu au monde où on nous remet les péchés des hommes, c'est dans l'Église. Pas ailleurs, c'est impossible. Parce que c'est un pouvoir divin et qui vient du Christ par les apôtres. Et deuxièmement, il faut remarquer une chose, les apôtres sont tous rassemblés. Il y en a 11, c'est les 12 moins Judas, plus Matthias. Les 12 sont rassemblés ensemble en train de prier et en train probablement de fêter la Pentecôte juive. L'Esprit Saint descend sur l'unité des 12. Il descend sur l'Église. Et vous avez remarqué comment se passe l'événement. Notre récit unique est dans les actes des apôtres, pas dans l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est l'Évangile du Christ. Les actes, c'est l'Évangile du Saint-Esprit, c'est le début de l'Église. L'événement est subit, fulgurant, déconcertant. Comme est le Saint-Esprit et son comportement vis-à-vis de nous. Vous avez vu, il y a un bruit énorme. Il y a un souffle qui est comme celui d'une tempête, tout ça vient d'en haut, ça vient du ciel. Et ça remplit la maison. Ça, c'est étonnant. Et ça se passe à l'intérieur de la maison. Et pourtant, on entend à l'extérieur, comme c'est étonnant. Ça se passe dans l'Église, mais c'est aussi pour le monde. Parce que le monde, c'est l'Église à venir, comme disait saint Siloane de Latos. C'est pour l'univers entier. Telle est l'action de l'Esprit. immédiate, imprévisible, puissante. Les apôtres sont saisis, suffoqués. Mais quand l'Esprit survient en nous, c'est pareil. On est suffoqué, stupéfait, on ne revient pas. C'est plus beau que tous les spectacles du monde. Les langues de feu, quelle merveille! Le terme langue n'est pas bon, c'est pas adapté. Puis il y a une confusion possible avec les langues qu'on parle. De quoi il s'agit? Il s'agit des flammes de feu. C'est pas des langues, c'est des flammes de feu. Mais qui a jamais vu des flammes sans un feu? Qui a vu des flammes sans foyer? Est-ce que vous avez vu qu'il n'y a pas de foyer? C'est des flammes en soi. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du feu en soi. Le feu sans source, le feu divin. Comme le disent les textes liturgiques, c'est le feu nu de la divinité. Feu en soi. Et vous avez remarqué que les apôtres voient d'abord les flammes de feu ensemble. C'est le même feu. C'est un feu unique. Mais il y a une flamme personnelle pour chaque apôtre. Feu unique. Mais les flammes sont distinctes et elles viennent se poser personnellement sur chacun. C'est un don personnel. Mais un don personnel d'une origine unique et reçue ensemble et à vivre ensemble. Eh bien, cela, c'est l'image même de l'épiscopat. C'est l'image même de l'épiscopat orthodoxe. La grâce épiscopale est une source unique, divine, et elle est reçue personnellement par un homme, par un prêtre. Mais elle doit être partagé et vécu avec les autres consignèrement. Un évêque n'est pas évêque tout seul. Et quand il se trompe, ça arrive, les autres peuvent le reprendre. Mais tu t'es trompé. C'était comme les apôtres. Quand un se trompait, les autres le reprenaient. C'est cela que nous appelons la consignérité. Je termine, enfin. Je vous ai dit tout à l'heure, aussitôt les Galiléens illettrés, les Galiléens pour un juif de Judée, rien de pire. C'est des péquenots, des gens de la cambouse, des gens ignares. Les Galiléens illettrés se présentent aux peuples qui sont à l'extérieur. Vous avez vu? La foule entend ce bruit étonnant dont on ne sait pas d'où il vient. La foule se rassemble. Aussitôt, les apôtres sortent. Aussitôt. Et ils parlent dans toutes les langues. C'est la fin de la tour de Babel. C'est la fin de la division de l'humanité, c'est la fin de l'incompréhension, c'est la restauration de l'homme paradisiaque, c'est la restauration de la nature humaine. Et si vous avez été attentif à la liste des peuples que Saint-Luc nous indique dans les Actes, il y a des gens qui viennent de tout l'Empire romain, surtout de la partie orientale, mais il y a quand même des gens qui viennent de Rome, qui ne sont pas nécessairement des Romains de naissance, et ce sont des Occidentaux. Il y a des gens de tout l'Empire romain. Et l'Empire romain était une image de l'univers qui était à cheval sur trois continents et qui rassemblait pratiquement tous les peuples de la terre. Et les apôtres font à ce moment-là la première annonce publique de l'Évangile. Ils font la première annonce publique de l'Évangile au monde entier, à tous les peuples, à toutes les cultures, à toutes les civilisations. Et les apôtres le font ensemble. C'est pas un dans un coin et un autre dans un coin. Ensemble. Et ils le font sous la motion du Saint-Esprit qui conduit l'Église et qui actualise la présence du Christ. Et au Saint-Esprit soit la gloire pour les siècles des siècles.
Amen.